Jean-François Parot, le prince de Cochinchine, donc les nouvelles aventures de Nicolas Le Floch. C'est un livre, j'imagine pour vous, tout à fait particulier dans cette série de Nicolas Le Floch, et on le comprend dès l'avant-propos avec ce fameux évêque d'Adran. Ce livre part d'une histoire qui vous est tout à fait personnelle et qui a même marqué votre carrière de diplomate.
Oui, c'est une affaire tout à fait particulière qui a marqué mon séjour à Saïgon. De toute façon, mon séjour à Saïgon m'a marqué, comme tout Français, parce que l'Indochine, c'est quelque chose pour nous Français qui ne vous laisse pas indifférents. Vous y arrivez avec, après avoir lu beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup d'histoires, Baudard, la guerre d'Indochine, et puis d'un seul coup vous êtes confronté à ce pays, à ce peuple, et d'un seul coup vous êtes séduit, vous tombez amoureux de cette terre. Bon, il s'est trouvé qu'il y a eu cette histoire d'exhumation, des soldats et des évêques qui étaient enterrés à Saïgon, et que là s'est passée cette affaire très particulière de l'exhumation de l'évêque d'Adran. L'évêque d'Adran, donc, était un évêque missionnaire des missions étrangères, qui avait servi en Thaïlande, puis ensuite était devenu l'ami de Nguyen Han, qui était le prince de Cochinchine. Ce prince de Cochinchine subissait les assauts de pirates chinois, les Taïson, et par conséquent, il est devenu en quelque sorte l'un des ministres de ce prince indochinois. Et en fait, il lui a proposé de partir à Versailles pour négocier un traité d'aide entre la France et le Vietnam. Donc, il est parti avec un personnage qui était le prince héritier, qui avait 6 ans, le prince Khan, et donc le Nguyen Han a confié son fils à l'évêque d'Adran avec le sceau de l'Empire pour marquer qu'il était son plénipotentiaire et qu'il avait toute confiance pour négocier avec le gouvernement de Louis XVI. C'est ce qui est arrivé. Pendant un an, l'évêque a négocié avec les ministres français. On a fini par signer un traité qui est le traité de Versailles. Il est rentré ensuite à Pondichéry. À Pondichéry, il s'est fâché avec le gouverneur Conway, qui était un personnage épouvantable. Et donc, du coup, il est parti avec une frégate, la Méduse, en débauchant un certain nombre d'officiers et d'ingénieurs. Et il est arrivé en Cochinchine en disant à Nguyen Han, voici l'avant-garde des troupes que le roi vous promet. En fait, à Versailles, on ne voulait pas. On avait des problèmes d'argent, comme d'habitude, et une fois qu'on a signé le traité de Versailles, on s'est dit on ne va pas le respecter. Et que d'Adran a dit, moi, je respecterai la parole de la France. Et pendant 10 ans, il devient une sorte de Richelieu, de Vauban des Vietnamiens, et meurt au siège de Quignon, au centre Annam. On le ramène, on l'embaume, on le garde assez longtemps, parce qu'au Vietnam, on l'enterre que si l'horoscope est bon et au bon moment. Et donc, on l'enterre au jardin des Manguiers, à Tan Son Nhut, à Saïgon, là où il avait une petite maison où il se retirait pour se reposer quand il n'était pas pris par les affaires de l'État. Alors, c'est une immense cérémonie avec des dizaines de milliers d'hommes, l'armée cochinchinoise, l'empereur, les princesses, et un défilé d'éléphants. Et on enterre l'évêque d'Adran comme si c'était un membre de la famille impériale. Et alors on l'enterre d'autant plus bizarrement, c'est que Nguyen Han ordonne qu'on l'enterre d'une manière dissimulée, comme on enterrait les empereurs d'Annam. C'est-à-dire, on savait toujours qu'il y avait soit des voleurs qui voulaient ouvrir la tombe pour récupérer les trésors qui étaient enterrés avec les souverains, soit qu'il ait imaginé que ses successeurs soit beaucoup moins indulgent que lui avec les catholiques. Et moi, quand je dois exhumer l'évêque d'Adran, parce que j'avais obtenu de Paris de les ramener, avec aussi Francis Garnier et Doudard de Lagrée, autre histoire extraordinaire, la veille du jour où je partais pour Singapour, on n'arrive pas à trouver le corps de l'évêque. Et puis, je dis, il doit être dans un tombeau caché, donc on creuse dans tous les côtés, et finalement, on finit par le trouver, un peu de biais, quelques dizaines de mètres plus loin, mais là, on tombe sur une immense tronc d'arbre qui faisait plusieurs dizaines de mètres de long, qui était creux, on enlève le couvercle, et là apparaît un magnifique cercueil or et rouge qu'on soulève, et là, qu'on ouvre, et alors à ce moment-là, on voit apparaître alors en majesté le corps de l'évêque d'Adran dans sa robe de mandarin, car il avait voulu être enterré sa robe de mandarin, et à peine les fossoyeurs y touchent que la robe se dissout, que tous les boutons d'or tombent au fond du cercueil. Le tout dans une atmosphère d'émeute, puisque les catholiques de Saïgon étaient là, considérant l'évêque comme un saint. Il y avait aussi les sorciers ou sorcières qui voulaient attraper du bois de cercueil pour leur préparation mystérieuse. Moi, j'étais protégé par des soldats qui me défendent à coups de crosse. À un moment, je tombe sur le cercueil, on me relève, et une fois le cercueil ouvert, je dis, craignant qu'il ne soit profané, je dis « donnez-moi la tête ». Et donc je saisis la tête, qui était tout à fait d'ailleurs encore parcheminée, intacte, avec une petite calotte sur la tête, et je la mets dans mon veston. J'ouvre mon veston et je le serre contre moi, et je regagne ma voiture, et le soir même, eh bien, on a, dans une pagode, on a incinéré les restes de l'évêque d'Adran, que j'ai ramené ensuite en France.
Une scène de roman, en fait. Cet avant-propos, c'est déjà le premier chapitre d'un extraordinaire roman.
Qui se continue en France, parce que je reçois une lettre à cheval des supérieurs des missions étrangères qui m'accusent. Il avait raison, car c'est la règle de sa maison, que les missionnaires doivent rester inhumés là où ils ont servi. Mais alors, bon, alors, il me reproche, et en particulier, il me reproche d'avoir quelque peu dévié les idées des missions étrangères en faisant revenir l'évêque et deux autres évêques qui étaient inhumés à côté sur des unités de la marine nationale. En quel cas, je lui ai répondu que j'avais obéi aux ordres de mon gouvernement et qu'en plus, je ne souhaitais pas, je n'aurais pas accepté, c'était mon honneur et ma façon de voir, que les cendres de l'évêque d'Adran soient passées au bulldozer comme c'était ce qui allait arriver. Et donc, finalement, on a coupé en deux les cendres de l'évêque. Une partie est rue du Bac, dans la crypte de la rue du Bac, et l'autre partie...
Donc des missions étrangères.
Et l'autre partie est à Origny-en-Thiérache, village d'origine de l'évêque d'Adran. Il y a eu une grande cérémonie avec l'évêque, avec le préfet, fait un discours, et ensuite... J'ai placé, puisque l'évêque a dit, le consul général a été à la peine qu'il soit à l'honneur, et donc on m'a confié l'urne pour que je la dépose au-dessus des fonts où l'évêque avait été baptisé quelques 30 ans avant.
Est-ce que vous diriez dans votre longue carrière de diplomate que, en tout cas je ne sais pas si c'est le plus grand moment, mais que c'est un moment absolument unique, évidemment?
Oui, c'est un moment unique. J'ai eu d'autres moments uniques dans ma carrière. On m'a tiré dessus, il y a un certain nombre de choses pas tristes. Mais je dois dire que c'est la seule fois où se sont mêlés intimement à la fois le présent et le passé et l'histoire de notre pays. Alors il y avait une espèce de au fond, de grande fierté de participer à quelque chose, à sauver les restes, à sauver les restes d'un personnage qui tout à la fois est un grand personnage de notre histoire, disons coloniale, mais aussi de l'histoire du Vietnam. Car quand vous allez à Hanoï, au musée d'histoire, il y a une vitrine avec l'évêque d'Adran, parce que l'évêque d'Adran au Vietnam est toujours considéré comme un artisan de l'unité nationale du pays.
Évidemment, on comprend que vous ayez l'envie de glisser cet épisode dans l'une des aventures de Nicolas Le Floch. Vous aviez cette envie depuis longtemps.
Oui, à l'origine, j'avais l'intention d'écrire quelque chose sur l'évêque d'Adran, puis je me suis aperçu que des gens beaucoup mieux fondés que moi pour le faire. Il y avait un certain nombre de livres, de gens qui faisaient des recherches dans les archives des missions étrangères, qui faisaient des archives dans les archives du Vatican. Et par conséquent, moi, je n'avais pas le temps de me lancer dans une recherche biographique sur l'évêque d'Adran. Et donc, je me suis dit, la seule façon de lui rendre hommage et de respecter la parole que je m'étais donnée à moi-même, de le faire revivre d'une manière ou d'une autre, c'était de l'introduire dans un roman de la série Nicolas Le Floch.